Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ah, moi, je travaille pas dans ces conditions avec autant de gens malades autour de moi.
Il est possible que ce chat ait la peau de Julien Célier vu les bruits qu'il continue de faire dans l'autre studio. Bon, merci beaucoup Julien, merci beaucoup Marc-Olivier Fogiel.
Et bonsoir à vous. Tous.
Bienvenue dans votre cabinet de curiosité au programme, Sidonie.
La diplomatie des papilles, ou quand les dîners d'État à l'Élysée permettent de réchauffer aussi les relations entre deux pays. Grâce à nous, vous aurez accès à un club très privé. C'est celui des chefs qui cuisinent pour des chefs d'État.
Et puis donc ce loup dans la gorge de Vincent Karsch, un ténor célèbre qui était ténor notamment à l'opéra de Bâle, l'homme qui avait perdu sa voix, puis retrouvé son âme. C'est ce que l'on va vous raconter tout à l'heure, mais tout de suite un phénomène qui fascine les hommes depuis toujours. Comment expliquer les aurores boréales ?
RTL. Si les aurores se forment dans l'atmosphère terrestre, c'est bien dans l'espace, à plusieurs milliers de kilomètres de notre planète, que ces phénomènes prennent naissance.
La curiosité est un vilain défaut.
Pour les observateurs terrestres, les aurores prennent l'apparence de grands voiles lumineux dans le ciel. Des phénomènes que les scientifiques appellent des sous-orages magnétiques.
Jusqu'à 22h.
On parle d'aurore boréale au pôle Nord, d'aurore australe au pôle Sud.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est un article de West France le mois dernier décrivant une aurore boréale dans le ciel de Normandie qui nous a donné envie d'en savoir plus sur ce phénomène. Bonsoir Rémi Marion.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir.
Vous êtes photographe spécialiste des régions polaires. On vous avait reçu ici même sur RTL pour parler des ours polaires et des grizzlies. Même si on en voit de temps en temps en France, c'est évidemment dans les régions polaires qu'il faut se rendre pour admirer les aurores boréales. C'est le spot.
Oui, alors ce sont les spots parce que c'est une couronne en fait qui se déploie sur l'hémisphère nord mais également sur l'hémisphère sud. Mmh. Mais il faut pas aller au pôle nord par contre parce qu'il n'y a quasiment pas d'aurore au pôle nord ni au pôle sud. C'est une couronne qui entoure les pôles et donc qui est plutôt dans des latitudes, on va dire actuellement entre 65 et 75 degrés nord à peu près.
Vous avez assisté à plusieurs aurores boréales, heureux homme, à quoi ça ressemble ?
Plein, oui, je suis très très content parce que j'en ai vu beaucoup et je suis toujours aussi fasciné par ce spectacle. Ça ressemble, oui, un espèce de voile, je dirais, une espèce de grande draperie qui se déploie dans le ciel et surtout qui est très dynamique. C'est ce qui est très difficile à rendre. Alors maintenant, avec les nouvelles technologies, on y arrive un peu plus.
C'est en mouvement.
C'est en mouvement et c'est en mouvement rapide en plus. Alors parfois ça se calme, c'est un peu comme des pulsions en fait d'énergie, de lumière dans le ciel.
Une fumée colorée, c'est ça ? Ça ressemble à quoi ?
Une fumée, non. Alors ça dépend comment on se déploie. Maintenant c'est plutôt un voile, une espèce d'évanescence plus qu'une fumée. C'est une espèce de flou dans le ciel. Et suivant l'ampleur de l'aurore, soit on a des arches, soit on a des rayons. Enfin il y a différentes formes dans le ciel. Donc c'est assez dynamique et c'est ça qui est très intéressant et très troublant quelque part parce qu'on voit le ciel qui s'agite.
Est-ce que les aurores boréales ont toujours la même couleur ? Moi j'ai l'impression qu'elles sont souvent vertes quand on les voit en représentation.
Oui, elles sont le plus souvent vertes. Ça c'est un problème de physico-chimie, on va dire, des hautes couches de l'atmosphère. Donc ce sont des atomes d'oxygène qui sont excités donc par le vent solaire et donc le plus souvent c'est vert.
On en voit une très jolie, une de vos photos Rémi Marion, sur le site RTL.fr.
Voilà, vous êtes
devant la tête de Thomas.
Avec un magnifique calendrier qui est très grand et donc un peu lourd à manipuler, ça m'a pris du temps. Et donc effectivement cette aurore boréale, elle est verte. Vous l'avez photographiée où, Rémi Marion ?
Ça c'est une aurore qui m'a vraiment marqué. Elle a été faite au sud de l'Alaska il y a déjà quelques temps, mais c'était certainement l'aurore la plus puissante et la plus durable que je n'ai jamais vue parce qu'elle a duré, je pense, 3 ou 4 heures avec cette intensité-là. On était au bord d'une rivière, donc on a le reflet de l'aurore aussi dans la rivière et elle était aussi très très intense. Donc il faut voir que l'intensité maximale d'une aurore, on peut lire les gros titres d'un journal quand même. Et on a son nombre porté.
Ah, la lumière que ça...
Voilà, la lumière que ça diffuse. Hein. Donc c'est à peu près presque une pleine lune. Quoi. Donc c'est quand même pas anodin. Quoi.
Il y a des signes annonciateurs d'une aurore boréale. On sait quand une aurore va se produire.
On regarde la météo sur les sites internet.
Il y a une météo des aurores boréales, vraiment ?
Tout à fait. Il y a des sites...
Vous n'avez pas l'appli, Thomas ?
Pas encore, mais je vais la télécharger très vite.
Il y a des sites, entre autres, finlandais, américains, canadiens, donc tous les astrophysiciens qui étudient l'activité du Soleil et l'activité magnétique de la Terre, et donc qui donnent des météos aurorales.
Quelles conditions il faut pour qu'il y ait une aurore boréale ?
Alors, déjà, ça dépend de l'activité du Soleil. Donc, il faut que le Soleil soit très actif et qui diffuse des vents qui soient assez chargés et donc avec des grosses éruptions au niveau du soleil. Et puis il faut aussi une activité magnétique terrestre assez intense. Donc après, évidemment, il faut des conditions météo aussi pour pouvoir la voir. Donc déjà, il faut déjà qu'il y ait des relations intimes, je dirais, entre le soleil et la Terre qui soient en marche et qui vont permettre d'avoir ce déploiement et cette réaction. Mais évidemment, il faut avoir aussi pas de nuages et tout. Donc comme sur la photo, on voit qu'il n'y a pas de nuages. Il ne faut pas de pleine lune non plus, parce que s'il y a une pleine lune, bah, il y a une intensité lumineuse qui vient contrecarrer la concurrence de l'aurore. Donc voilà, ça fait pas mal de paramètres aussi. Mais il y a des endroits où vous avez 230 nuits d'aurore par an. Donc on en voit souvent.
Et donc ça provoque un tourisme des aurores boréales. On en parlera tout à l'heure. Rémi Marion, en France, on parlait tout à l'heure d'une aurore boréale en Normandie en décembre. C'est rare.
Oui, c'est relativement rare.
On est très loin des pôles, donc.
Oui, très loin des pôles, mais je vous ai dit, hein, donc c'est une bande aux alentours de 65-75. Nous, au nord de la France, on est à 46 ou 47 ou 48 même. Donc, on s'en rapproche. Donc, s'il y a une forte éruption solaire, si le magnétisme de la Terre est très très intense, eh bien, cette bande, on va dire, comme les éclipses, hein, cette bande va s'élargir en intensité et donc peut venir jusque la France, jusqu'en France. Et par exemple, il y a une dizaine d'années, eh bien, on a vu des aurores jusqu'à Grenoble, par exemple, donc relativement sud en France. Et puis ça dépend aussi de la position du pôle nord magnétique. Et comme le pôle nord magnétique a tendance à se rapprocher de chez nous, on va dire, plutôt que d'être au nord du Canada, eh bien on risque d'en voir peut-être un peu plus souvent.
Oula, ça demande une autre question. Pourquoi le pôle nord magnétique n'est pas toujours au même endroit? Mais on se la garde pour tout à l'heure, et puis on va parler aussi de ce tourisme des aurores boréales. Restez avec nous sur RTL.
Soyez fiers d'être curieux.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
On démarre la semaine en beauté dans la curiosité, puisqu'on vous embarque pour un voyage au pays des aurores boréales. C'est l'auteur, photographe et spécialiste des régions polaires, Rémi Marion, qui nous sert de guide. Vous piaffez, Thomas, vous avez une question.
Pour tout vous dire, pendant la pub, on a eu un débat avec Sidonie. Faut-il vraiment poser la question pour comprendre ce qu'est le pôle Nord magnétique?
Rémi Marion nous a départagé, il a dit, vous êtes des curieux ou quoi?
Voilà. Bon, alors, c'est quoi la différence entre le pôle Nord géographique et le pôle Nord magnétique?
Alors, notre Terre, bien, c'est une boule, on va dire, pour faire simple, et donc qui est traversée par un axe virtuel, on va dire, donc qui passe par les deux pôles géographiques. Mmh. Et ceux-là, ils se déplacent, mais de façon très très lente. Et par contre, la Terre, c'est aussi, on va dire, une dynamo, c'est-à-dire qu'elle a un noyau qui va aussi se déplacer, donc qui est à l'origine du magnétisme de la Terre. Et donc des aurores. Et ce qui fait que le pôle, c'est-à-dire l'axe du pôle des pôles magnétiques, eh bien n'est pas le même que l'axe de rotation de la Terre. Il est légèrement décalé. Mais il est sans cesse en train de se déplacer, ce pôle magnétique. Et là, actuellement, il se rapproche progressivement du pôle nord géographique. Et donc l'ovale auroral, c'est-à-dire cette couronne où on peut voir des aurores boréales, eh bien se déplace également parce qu'il est centré sur ce pôle magnétique.
Parfait.
Vous me répéterez tout ça,
bien
Thomas,
sûr,
à la fin de l'émission.
J'ai tout noté.
Rémi Marion, elle a une question de Béotienne. Aurore boréale, ça veut dire quoi?
Donc, ce sont les aurores que l'on voit dans l'Arctique, dans le Grand Nord, donc de Borée, le vent du Nord. Mais vous avez exactement la symétrie dans l'hémisphère sud. C'est-à-dire que quand vous prenez une photo, la même latitude, même longitude dans l'Arctique et la même latitude et longitude au sud, vous faites la même image.
Au même moment.
Au même moment. C'est un phénomène parfaitement symétrique entre les deux régions polaires.
Et ça s'appelle comment de l'autre côté?
Des aurores australes.
Et est-ce qu'il y a donc il n'y a pas de différence? Elles sont aussi belles des deux côtés?
Exactement.
Ça répond à une question de Philippe qui nous appelait. Dis-les-Vilaine au
fidèle auditeur.
Fidèle auditeur, merci. Philippe, est-ce que c'est la bonne période en ce moment pour voir des aurores boréales?
Oui, c'est bien parce que c'est l'hiver, les nuits en général sont froides et claires. Il faut évidemment aller dans des régions où il y a peu de nébulosité pour pouvoir les voir. Et donc, on a des nuits qui commencent très très tôt, donc on peut avoir des aurores boréales. Je dirais, moi j'en ai vu à partir de 19h dans certains endroits. De 19h jusqu'à 2 ou 3h du matin, on peut avoir un spectacle en permanence, quoi.
Vous nous avez expliqué, Rémi Marion, que la création, la formation d'une aurore boréale, c'est un rapport entre l'activité du soleil et les vents solaires et puis aussi la Terre, hein, pour résumer vos propos en quelques mots. Combien de temps il y a entre l'éruption solaire et l'aurore boréale?
Alors, on va dire qu'il y a à peu près 2 jours, hein, entre l'activité du soleil. Donc, le vent solaire se déplace à 400 km seconde. Et alors, quand il y a une très grosse éruption solaire, ça peut atteindre 700, 800 km seconde. secondes. Et
c'est pour ça qu'on peut les prévoir, qu'il y a cette météo des aurores.
C'est pour ça qu'on peut les prévoir. D'accord. Les gens qui observent le soleil peuvent constater justement qu'il y a une forte activité solaire. Mmh. Alors après aussi, donc il faut qu'il y ait une activité aussi terrestre assez intense qui soit en concomitance pour avoir les deux. Mais dans les endroits favorables, comme je vous disais tout à l'heure, 230 nuits d'aurore boréale, là ce sont des endroits qui sont juste au milieu de cette fameuse couronne où il y a des aurores. Et bien là, il n'y a pas besoin d'avoir une activité magnétique très très intense. Mmh. Et on a des aurores presque tous les jours.
Et alors il y a donc un tourisme qui s'est organisé pour voir les aurores boréales. Je sais pas, il y a des hôtels spécialisés. Comment ça fonctionne ?
Pas des hôtels, mais c'est vrai qu'il y a des zones comme au nord du Canada, du côté de Fairbanks, Yellowknife, en Finlande aussi. Il y a des zones tout à fait favorables pour voir les aurores. Et puis, évidemment, ça fascine. Donc, on en parlera peut-être après sur les légendes. Mais par exemple, il y a quasiment des charters de jeunes couples japonais qui viennent voir les aurores boréales. Parce que suivant une des légendes asiatiques, eh bien, concevoir ses enfants à la verticale d'une aurore boréale, au même moment qu'une aurore boréale, c'est un signe de prospérité. Donc, ce qui fait que
vaut mieux être dans un hôtel, en effet.
Donc, il y a bien des hôtels spécialisés.
C'est des hôtels spécialisés. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant. On voit dans des zones polaires des jeunes couples un peu partout, au nord de la Finlande, par exemple, des jeunes couples asiatiques qui c'est viennent faire des enfants.
En Laponie, Rémi Marion, il y a même des igloos de verre.
Mmh. Pour observer.
Oui, pour les observer. Donc on est au chaud en même
voilà,
temps.
Voilà, on est au chaud. Il y a des espèces de gros dômes en plexiglas aussi qui permettent d'être en pantoufles et de regarder les aurores.
Mais là, il ne faut mieux pas concevoir son enfant.
Voilà, c'est ça. Moi, je conçois qu'une aurore boréale, c'est bien quand on, quand on sent le froid et qu'on est dans l'air frais. Et là, c'est chouette. Là.
Mais c'est plus sympa de prendre rendez-vous avec une aurore boréale ou de tomber dessus ?
Oh, y a toujours... De toute façon, on a une aurore boréale. Déjà, on ne sait jamais, même si on voit que l'intensité est intense, on a de fortes chances de l'avoir, mais c'est pas à tous les coups.
Faut être patient.
Faut souvent être patient. On n'en voit pas tout à tous les coups. On n'en voit pas non plus toujours de très très intense. Puis parfois, ça dure quelques minutes. On se dit, oh, on va passer une super soirée d'aurore. Et puis au bout de 5-6 minutes, il n'y a plus rien. Mm-hmm. C'est comme si le feu était éteint.
Donc faut être patient et bien équipé. Contre le froid, j'imagine.
Contre le froid, parce que c'est vraiment intéressant aussi de vivre ces régions polaires de façon intense, quoi. Mmh. Et d'être dehors, hein, faut pas non plus.
J'imagine que dans les villes, c'est dur à observer une aurore boréale, c'est-à-dire la lumière, ça doit gêner.
Complètement. Ce qui est intéressant, c'est que Camille Flammarion, l'astronome français, avait observé des aurores boréales au-dessus de Paris. Hein, et il a fait des dessins d'ailleurs qui sont très beaux, des pastels.
C'était quand ça ?
Dans les années du 170, je crois, oui, dans ces eaux-là. Et donc il n'y avait pas beaucoup de lumière parasite à cette époque. Et donc à l'observatoire de Meudon, on pouvait voir des aurores boréales. Maintenant, c'est un peu plus compliqué.
Aujourd'hui, c'est plus compliqué.
Ah, c'est magnifique les aurores boréales. Et puis c'est un peu magique aussi. Vous avez commencé à nous raconter quelques légendes. Il y en a d'autres sur les aurores boréales. A tout de suite dans la curiosité sur RTL.
Vous écoutez RTL,
première radio de France. RTL.
Au début, on peut voir un rideau de lumière assez diffus.
Les filles de l'aurore, je peux encore les retrouver.
On croit à un nuage plus clair que les autres. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que ce nuage va se mettre à bouger.
Jusqu'à 22h.
Et là, dès qu'on voit des raies de lumière qui apparaissent dans ce rideau, c'est ce qui est le plus impressionnant.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
William Scheller a-t-il pensé aux aurores boréales en écrivant cette chanson ? Sans doute pas, mais elle est tellement belle qu'on remercie André Facetta, notre réalisateur, de l'avoir choisi.
Les filles sont belles comme des aurores boréales.
C'est ma soirée.
Les filles sont belles comme des aurores boréales,
d'accord,
Thomas.
Ça ira pour cette fois. En tout cas, pour parler des aurores boréales, ça suffit, Sidonie. On est avec le photographe et spécialiste des régions polaires, Rémi Marion. Il nous raconte ces aurores boréales. Et donc, ces légendes qui se sont construites, on l'imagine, avant toute cette science que vous partagez avec nous depuis 20h, et on vous en remercie. Des légendes, il y en a depuis que les hommes existent ?
Oui, tout à fait, parce qu'on peut imaginer que de voir s'embraser le ciel durant l'Antiquité, Aristote a déjà décrit les aurores aussi, parce qu'à l'époque on en voyait en Italie même. Donc, et puis dans nos campagnes aussi, parce que les gens voyaient le ciel devenir vert, et souvent rouge, parce que quand on les voit en France, elles sont rouges. Et donc ça pouvait être synonyme aussi de guerre, et souvent c'était souvent... justement mauvais présage. Hein. Et surtout qu'en France, on n'a pas eu de chance parce que on en a vu en 1869, 1913 et 1938.
Ah oui.
Et celle de 1938 était apparemment très très intense. Et donc, dans les gens qui n'avaient pas cette connaissance scientifique qui est arrivée assez tardivement. Il a fallu connaître l'atome pour pouvoir expliquer en détail le fonctionnement d'une aurore. Donc on peut imaginer vraiment que c'était vraiment une fantasmagorie incroyable. Mmh. Alors dans les pays où on voit des aurores boréales souvent, par exemple chez les Inuits, bien c'est plutôt bon signe. Et on utilise l'aurore boréale un peu comme un véhicule, comme un passage pour aller voir les gens qui les défunts et prendre conseil auprès d'eux, quoi.
Il y a des cérémonies qui sont liées aux aurores boréales dans
pas
le pays
Inuit. Pas des cérémonies parce que les Inuits n'étaient pas vraiment. Enfin, il y avait certainement des soirées chamaniques, on va dire, et les chamans utilisaient les aurores boréales justement pour les prendre conseil. Alors que dans les régions où on les voit très peu souvent, au Moyen Âge ou un peu plus tardivement en France, on organisait des pèlerinages à Notre-Dame et ainsi de suite parce que c'était vraiment mauvais signe et c'était la puissance de Dieu qui venait tomber sur les hommes. Et dans les mythologies germaniques, par exemple, la chevauchée des Valkyries. Mmh. Eh bien, ce sont les aurores boréales. En fait, c'était les déesses de Valhalla qui viennent faucher les combattants sur les champs de bataille. Et donc, il y a une grande symbolique aussi un peu guerrière derrière ces animations dans le ciel, quoi.
Et puis en Laponie, quand on regarde, on voit une aurore boréale, on cherche à voir la queue d'un renard.
Les feux du renard, ça s'appelle. Et oui, les feux du renard, parce qu'ils imaginaient que c'était un renard qui avait le feu à sa queue et qui traversait le ciel et qui s'agite. C'est très poétique. Hein. Ouais. Et les Inuits, ils voyaient plutôt la tête d'un morse avec ses deux grandes canines qui se promenaient à travers le ciel et qui faisaient ces espèces de raies de lumière.
Et donc, pour ceux qui nous rejoignent, cette histoire de fertilité, vous l'avez raconté tout à l'heure, donc on ne va pas la raconter cette légende en entier, mais ça vient d'où? Ça vient de Chine.
Ça vient du Japon, vient de Chine. C'est arrivé au Japon et donc ça date je crois du 6e siècle. Et donc à l'époque, on voyait aussi quelquefois des aurores boréales dans ces endroits-là.
En gros, il fallait faire l'amour sous une aurore boréale.
Voilà, c'est ça.
Pour être heureux
Pour que l'enfant qui soit conçu à ce moment-là soit prospère.
Et puis pour gagner de l'argent aussi, plus d'argent, c'est ça.
Ah bah oui, du coup, c'est la fertilité financière
dans
aussi.
Dans tous les sens
du terme. D'accord, on a compris. Est-ce qu'on peut voir une aurore boréale depuis l'espace, Rémi Marion?
Oui, alors il y a eu des très belles images. D'ailleurs, il y a une très belle image qui est actuellement sur le net et qui montre cette couronne, cette fameuse couronne dans son intégralité. Et donc ça, c'est très très intéressant. Les gens qui sont dans la station spatiale voient des aurores boréales presque tous les jours. Quand on est en avion aussi, hein, quand on fait le trajet Paris-San Francisco, c'est très très fréquent. Donc ce sont toujours, évidemment, la vision, je dirais en avion, est la même que quand on est au sol, mais souvent on est au-dessus des nuages, donc c'est beaucoup plus clair. Et quand on est évidemment dans la station spatiale, c'est un peu différent parce qu'on est au-dessus de l'aurore et on voit la Terre qui est en arrière-plan de l'aurore. Donc ça donne des images absolument sublimes, évidemment.
Et est-ce qu'il y a d'autres planètes à aurore boréale?
Oui, il faut des planètes qui aient un système magnétique. Donc Saturne a des aurores qui ne sont pas forcément sur les pôles nord ou sud, mais ça peut être aussi des aurores équatoriales, ça dépend comment fonctionne aussi le système magnétique. Il faut aussi, je dirais, une atmosphère, donc des particules d'oxygène, d'azote ou de gaz qui soient autour de la planète pour générer ce phénomène.
Donc vous disiez, Rémi Marion, qu'elles sont plutôt vertes, c'est ça, dans le nord de la Terre, plutôt rouges chez nous en France. Est-ce que vous avez observé d'autres couleurs?
Alors c'est très rare, elles peuvent être légèrement rosées, souvent en bordure du vert, vous avez du rosé. Donc tout ça, c'est vraiment le type de molécules et d'atomes qui sont excités par ces arrivées d'énergie. Moi, la chose peut-être la plus incroyable qui m'est arrivée avec une aurore, c'est d'entendre. D'entendre, oui, parce qu'en fait, une aurore boréale, c'est une manifestation lumineuse de ce qu'on appelle un orage magnétique. Et il peut y avoir aussi une espèce de petit frémissement qui est très ténu, mais que l'on peut entendre quand même, été enregistré.
Et ça donne le frisson?
Oui, parce qu'on se demande un peu ce qui se passe quand même. Vous êtes au milieu de nulle part, au milieu de la glace, et vous entendez un espèce de grésillement électrique. C'est tout à fait, ça m'est arrivé une fois.
Merci beaucoup, Rémi Marion. Votre prochain voyage au pôle, c'est quand?
Ce ne sera pas très au pôle, ce sera en Finlande, mais ce sera au tout début du printemps, en attendant que les ours bruns sortent des tanières.
Finlande magnétique ou vraie Finlande?
Merci
beaucoup, Rémi Marion.
Merci beaucoup.
Vous écoutez RTL.